essentiel pour l'économie de la connaissance, mais il est A. Économie de la connaissance, d'ailleurs, on a bien ce procès tout à fait forte, de polarisation tout à fait forte, qui va de pair avec l'économie, la montée de l'économie de la connaissance, le post-fordisme, alors que le fordisme, le taylorisme, toute la période des Trente Glorieuses, avait plutôt une tendance intégratrice, une tendance plutôt à la dispersion qu'à la polarisation. Donc il y a un phénomène tout à fait important de savoir quels sont les contours, et l'économie de la connaissance, de mise en œuvre du savoir, dans des rapports sociaux, et l'économie de la connaissance ne peut être qu'appropriable pour exister économiquement, d'où institutionnel, des droits de propriété intellectuelle. Vous savez qu'aux accords de Marrakech, en 1994, ont été disputés, au sens propre du terme, c'est-à-dire ont été négociés, une négociation très simple, a été faite de manière parfaitement bilatérale, c'est la négociation de la signature par tous les pays du tiers-monde, sauf les pays moins avancés, les plus pauvres, les 40, à qui on a laissé un délai, la signature des TRIPS, des droits de l'accord sur les droits de propriété intellectuelle, la pharmacie, le sida, etc., les médicaments anti-sida, et contre le démantèlement d'un certain nombre d'accords, multiplie, par exemple, sur le textile, l'habillement, etc. C'est-à-dire qu'on a fait vraiment un échange, et là, c'était clairement quelque chose d'établi, et pas forcément par un pays sur un autre, mais vraiment dans du savoir, dans l'économie du savoir, la création ne se suffit pas à elle-même. Alors, d'accord, enfin, avec ça, il y a finalement, si on résume, un processus de transformation que j'ai partant de l'aval et en remontant à l'amont, c'est-à-dire je suis parti de ce qui vous apparaît comme étant la caractérisation même de la nouvelle économie, de l'information, des technologies, de la formation, tout ce qui est support de cela, donc des possibilités de connexion, de réseaux multiples, et puis quand on remonte au processus de production, on a les phénomènes de sélection. Donc à l'aval, on a l'homogénéité, à l'amont, on a la sélection. Et ça me paraît être une grille importante pour comprendre le caractère tout à fait contradictoire de ce capitalisme qui se nourrit à la fois de mobilisation du savoir, qui a besoin à ce moment-là d'investir massivement dans ce savoir, et qui en exclut et continue à créer considérable sur des bases restreintes finalement. Même si vous avez des pays qui émergent, vous avez tout de même, n'est pas pillé qui le souhaite aujourd'hui, n'est pas exploité qui le souhaite aujourd'hui. Il y a quand même des phénomènes d'exclusion et de marginalisation qui sont concomitantes. Donc, deuxième partie de ma communication, quand on a fait un peu, on est d'accord sur ce qu'on appelle l'économie du savoir, eh bien, quelles sont les implications de cette économie du savoir sur la localisation des activités? Alors, pour être pédagogique, je reprendrai volontiers les activités intensives en connaissances et les autres, parce que simplement, ça me permet de donner des faits stylisés à partir d'indicateurs. Donc, si je prends les activités intensives en connaissances, quelques faits stylisés à travers de la recherche et développement, où est-ce qu'elle est créée, où se localisent les laboratoires de firmes, et les brevets déposés, qui mesurent plus directement l'innovation. En quelque sorte, là, j'ai fait un saut, puisque je suis passé d'une économie de la connaissance et clairement comme une intermédiation entre le marché et l'intelligence, d'une certaine manière, avec des stratégies de captation, diraient certains. Et là, d'un point de vue, quand je veux passer à des faits stylisés, à quelque chose d'empirique, je suis obligé de réduire en quelque sorte cette économie-là, c'est-à-dire l'activité d'innovation et de recherche. Développement. Bon, on peut prendre déjà ces indicateurs-là et regarder les activités intensives en connaissances qui font beaucoup de R&D, qui déposent beaucoup de brevets, où se localisent. C'est le premier point de cette deuxième partie. Pourquoi est-ce que ces activités de connaissances se concentrent dans l'espace alors que quand j'ai défini le savoir de manière la plus apparente, c'est-à-dire comme de l'information qui circule librement à travers les TIC, Internet, etc., vous pouvez vous dire, finalement, on peut très bien à être dispersé, complètement disséminé dans l'espace, et mondialisé, planétarisé. Bien non, ça n'est pas ce que l'on constate. On considère, en dépit de la délocalisation récente des laboratoires de recherche et développement par les firmes multinationales, point que je traiterai également. Donc, quelques faits stylisés. Pourquoi y a-t-il un phénomène de polarisation? Comment expliquer en même temps la montée de la globalisation de la recherche-développement, des activités d'innovation? Ça renvoie à un des papiers qui est publié dans les cahiers français, Croissance et Innovation, que vous avez sur le site. Mais je ne reprends pas ce papier, je vous donne juste les éléments. D'abord, les activités en connaissance concernant les faits, parce qu'il me semble important de donner des faits. Ce phénomène de concentration, de polarisation, il est absolument remarquable. C'est-à-dire que les activités intensives en connaissance ont une tendance lourde à la concentration. Les activités de connaissances technologiques appréciées par les dépenses de R&D ou les brevets sont beaucoup plus concentrées que les autres activités productives. Par exemple, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni représentent 75% des dépenses de R&D européennes. L'essentiel se concentre sur 5 régions, si vous voulez. Vous prenez les États-Unis, vous avez exactement le même phénomène de concentration et de polarisation. Vous prenez au niveau, vous avez les 10 premiers pays dépensiers qui représentent à peu près, cela en dépit de la montée de pays émergents. Et si l'on enlevait la Chine et l'Inde, d'une certaine manière, on n'aurait pas grand-chose. Donc un effet de concentration assez net, assez fort. Cet effet de concentration et de polarisation des activités intensives en connaissances, corroboré par tous les indicateurs que vous prenez, brevets, R&D, citations, tout ce qu'on fait en économie de la connaissance, ne concerne pas seulement les activités de recherche et développement, mais aussi toute une série d'activités d'industrie à rendement croissant, qui en bénéficient de beaucoup d'économies d'échelle. Et vous avez un phénomène majeur, par exemple, je prends le cas de l'Europe, c'est celui que nous connaissons le mieux, depuis l'intégration européenne, à chaque étape de l'approfondissement de l'intégration européenne, vous avez un phénomène simple, c'est que les pays ont tendance à se rattraper entre eux, mais les divergences à l'intérieur des pays s'accélèrent formidablement. Vous en avez un petit peu dans la région Rhône-Alpes, 8%, vous en avez un peu à cause d'Airbus de l'autre côté, là, et puis plus rien après. Et ce phénomène d'accélération des effets de polarisation infranationale, en dépit d'un processus de camp, est un élément qui rejoint ces histoires de polarisation, et qu'on retrouve pas seulement dans les pays riches, mais aussi dans les pays pauvres. En quelque sorte, vous avez quelque chose de tout à fait intéressant, ça me permet de passer au pourquoi ce phénomène de polarisation. Pourquoi ? Ben parce que vous avez finalement deux forces qui s'opposent. Et ces deux forces, on peut trouver deux explications assez complémentaires. L'une de la théorie de l'économie géographique et l'autre de la théorie de l'économie de la connaissance. Dans les deux cas, on a l'existence de ces deux forces. Vous avez une première série de forces, c'est ce qu'on appelle les forces de polarisation. Ce sont tous les avantages, dont on va parler aussi un petit peu, à l'agglomération des activités, au fait de se concentrer dans l'espace plutôt que de se disperser. Et les économies d'échelle, vous avez un accès aux biens intermédiaires beaucoup plus efficaces, à des coûts plus faibles, vous avez un accès au crédit, vous avez un accès au travail qualifié, l'organisation de la métropole. En effet, on le retrouve comme des éléments mesurables économiquement. Deuxième point, vous avez une dispersion. Et ça, c'est assez intéressant, parce que l'économiste passe pour un... le revendique, puisqu'il est là pour ça, hein, C'est pour une fois que l'économiste peut être le fou et le philosophe le sérieux. Bien, il y a un paradoxe, c'est que plus vous baissez les coûts de transaction, plus vous diminuez les coûts de transport et les coûts de transmission de l'information, plus vous favorisez l'organisation. C'est-à-dire que si vous diminuez de 20% les coûts de transport entre la France, entre l'île de France et la Bretagne, par exemple, vous désenclavez la Bretagne, eh bien, le premier effet, vous pouvez penser, vous, ceux qui ne sont pas économistes fous, que les activités vont se disperser dans l'espace, puisqu'au fond, les coûts de transport baissent. Mais pas du tout. Puisque les coûts de transport baissent, eh bien, on va se localiser au centre, précisément, métropole, et on va desservir les multiplicités de périphéries et de centres qui se développent dans ce contexte de l'économie post-fordienne de la connaissance. Vous prenez le cas, par exemple, du Portugal, par exemple. Le désenclavement du région du Portugal grâce au fonds structurel ne s'est pas traduit par une attraction des activités. Les investissements réalisés dans le nord du Portugal se sont redécolocalisés vers Madrid, la métropole de Madrid, parce qu'il y a des routes, parce qu'il y a des transmissions. L'agglomération reprend le dessus. Et l'agglomération, la métropole, c'est quoi? C'est des externalités, c'est-à-dire des économies positives, des retombées positives liées justement au sein. Ces économies qui peuvent externes, qui peuvent être de nature, celles qui, pour Marshall, consistent à modifier les coûts de production, bien sûr à la baisse, hein, quand vous êtes localisé dans une grande agglomération, vous diminuez le coût d'accès au travail, le coût d'accès au capital, etc. etc. Donc vous avez des rendements croissants, des échelles croissantes pécuniaires, et puis vous avez des externalités qui sont des externalités technologiques, hein, des externalités liées simplement qui permettent de bénéficier de technologies qui sont externes aux firmes. Vous avez des externalités d'agglomération à la Jacobs, c'est-à-dire le fait particulier, mais à un ensemble de secteurs diversifiés, le fait d'agglomérer des activités qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et de les concentrer dans un espace, puis que les retombées technologiques de l'agglomération, de la polarisation, ben vous en avez qui sont de nature, qui sont liées à des externalités de connaissance, aux retombées de la connaissance elle-même. Et là, ces retombées de la connaissance sont liées au fait que, précisément, le savoir, pour citer Marianne Feldman, traverse les corridors et les rues plus facilement que les continents et les océans, en dépit justement de la simplicité qu'il y a à transférer de l'information. Et dans la mise en œuvre de la connaissance, dans son processus de transformation nécessitant la mobilisation du travail, la compétence, le travail cognitif, le rapport au capital, le rapport au marché, à la monnaie également, dans ce rapport-là, eh bien, quand on s'y vend connaissance, il y a un intérêt pour elle à se localiser dans les grandes agglomérations plutôt qu'à se disperser. Quand les connaissances sont très codifiées, alors on peut les disperser, plus partager entre des gens qui ont exactement les mêmes connaissances, les mêmes savoirs qui sont similaires entre eux, eh bien là on peut dire qu'on peut se délocaliser, on peut se disperser dans l'espace et échanger plus facilement, y compris par les technologies de l'information et de la communication. Les gens complémentaires, alors ça nécessite la proximité. Il y a des raisons objectives à ce qu'à un moment donné, les forces de la polarisation l'emportent sur les forces de la dispersion. Mais ça ne dure pas toujours. Ça ne dure pas toujours. Par exemple, les émeutes urbaines, les effets corollaires des économies d'agglomération. Donc, on avait dans des rapports récents, pas prédit, parce que les sociologues le prédisaient très bien, l'ouvrage de Stéphane Beau et Michel Pialou, « Violence urbaine, violence sociale, jeunesse d'une nouvelle classe dangereuse », finissait comme cela. Ça n'est qu'une bombe à retardement, disait-il, ce processus-là de segmentation. Mais, en effet, il y a un phénomène de limite à l'efficacité de l'agglomération. Il y a un effet, une limite qui la produisent en même temps qu'elles sont efficaces. Donc les économistes qui en restent juste là disent il y a un principe d'efficacité polarisant au grand pôle et laissant faire le reste par des politiques de redistribution. De toute façon, ce qui importe, c'est l'efficacité de la croissance. Mais on voit aujourd'hui que même l'efficacité de la croissance par la polarisation produit ses propres limites et qu'il y a un avantage économique aussi à modifier la donne de ce point de vue-là. Alors vous me direz, tout n'est pas des 3 minutes, je ne traiterai pas la question de la fragmentation des processus productifs, sinon à fragmenter votre attention. Eh bien, je terminerai simplement sur le fait que, au niveau mondial, comme à l'intérieur des nations, l'emporte aujourd'hui sur les forces d'intégration, de dispersion, d'intégration. Ça, c'est vraiment une réalité que l'on observe et qui est beaucoup plus forte depuis l'épuisement du fordisme, qu'il y a, c'est par exemple ces gens qui vous parlent maintenant d'aristocratie cognitive, on pourrait dire, hein, de gens qui bougent, qui sont mobiles, qui bénéficient de salaires extrêmement élevés, ces effets de starisation, on les observe depuis les années 80 dans l'industrie. Aux États-Unis, par exemple, il y a des études très sérieuses qui montrent que les écarts entre les très qualifiés et les non qualifiés augmentent très fortement, mais en plus, à l'intérieur des qualifiés, les écarts entre les stars, mais qui se trouvent à différents niveaux, et les qualifiés normaux, qui sont dépossédés de leur qualification d'une certaine manière, pour pérenniser d'une certaine manière, ça croît aussi considérablement, ça va de 1, stock option, etc. Donc il y a un effet, cette économie de la connaissance, c'est une économie de la connaissance qui est une économie exclusive, qui exclut davantage qu'elle n'intègre, et qui, pour l'économiste, qui est intéressant à, disons, regarder de près, c'est comment peut-on fonctionner en excluant une partie non négligeable de l'humanité de la consommation et en faisant tel profit. Parce qu'on a, ces idées justement de que la demande, c'est une demande de renouvellement. Et regardez l'automobile, les cycles de vie sont extrêmement rares. Même phénomène de mode dans l'automobile que dans l'habillement. On a les mêmes. On a cette logique du capitalisme cognitif, si je peux utiliser ce terme que je n'aime pas, mais que j'utilise quand même là. On a une logique de renouvellement tellement rapide. Conciliant inégalité salariale et source de revenus considérables grâce à justement la capacité qu'ont les oligopoles cognitifs, faire bien attention qu'institutionnellement leurs intérêts soient respectés, d'où les brevets, etc., eh bien on a une économie qui peut fonctionner très inégalitaire à l'intérieur des nations et qui peut faire émerger de nouveaux pays émergents, mais dans le cas de la Chine par exemple, les inégalités entre la jetière et le reste de l'économie, c'est absolument considérable et ça peut durer encore 50 ans. C'est-à-dire qu'il y a un véritable monde entre la zone côtière, à tous les niveaux, ne font que s'accroître. Alors vous me direz, pourquoi pourtant parle-t-on, c'est ce que je traite dans ce de la délocalisation récente des laboratoires de R&D par les firmes multinationales, polarise, c'est que inégalité, pourtant on voit que des firmes vont en Chine, vont en Inde, etc. Là, les travaux qu'on a pu faire aussi, qui se font chez des économistes, montrent que segments délocalisés en Chine ne sont pas ce segment cognitif les plus standardisés, les plus codifiés et les plus contrôlables à distance et qui sont délocalisés. Concerne une délocalisation croisée entre les régions des pays riches entre eux, entre la Silicon Valley et l'Île-de-France. Et ça passe par des fusions-acquisitions. D'ailleurs, rien ne achète un tel laboratoire de R&D qui se trouve aux États-Unis par une fusion et acquisition, c'est-à-dire par une prise de participation dans le capital. C'est la main-d'œuvre qui bouge, hein, c'est la main-d'œuvre qualifiée qui bouge. Très peu d'industries sont délocalisées, de laboratoires de R&D sont délocalisées directement. Et ces délocalisations que nous avons étudiées dans le domaine de la recherche et de l'innovation, à voir avec celles qui existaient dans les années 70. Dans les années 60-70, les firmes créaient, les firmes multinationales, des laboratoires de R&D à l'étranger pour faire ce qu'on appelle de la recherche et développement adaptatif, c'est-à-dire pour adapter les produits à la demande locale, mais contrôler, garder l'ensemble du processus dans le pays domestique. La nouveauté depuis les années 90, c'est qu'on délocalise aussi la production de connaissances elle-même. Mais, encore une fois, il faut faire attention, elle ne se délocalise pas n'importe où, elle se délocalise de manière croisée, entre les régions des pays riches eux-mêmes. C'est à 80% l'interdépendance croissante des systèmes régionaux d'innovation des pays riches qui se met en œuvre selon un principe qui est analysé dans le papier, qui est le principe que nous appelons, nous, de division cognitive du travail par opposition au principe de division technique du travail. Et je n'ai pas le temps, malheureusement, d'expliciter parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps, mais je dirais simplement que pour nous, la division cognitive du travail et la division taylorienne du travail sont deux modes parfaitement complémentaires de l'organisation du capitalisme contemporain. Et il n'y a pas un beau qui serait la division cognitive du travail qui annoncerait un monde dans lequel, si vous voulez, les agents seraient, etc. Il y a une combinaison très étroite, j'explique ça dans les deux papiers de manière différente, il y a une combinaison droite entre des logiques cognitives et des logiques tayloriennes pour faire précisément fonctionner les contradictions du capitalisme contemporain. Parce que sinon, on ne peut pas expliquer ces contradictions. Voilà, je vous remercie.